Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Nous poursuivons notre série sur la crémation et les grandes civilisations. La crémation se développe aujourd'hui en France. A-t-elle un sens et lequel dans d'autres civilisations plus anciennes ou venues d'ailleurs ? Quel est le statut du corps qui doit être préservé ou qui peut accepter la crémation ? La sagesse des civilisations anciennes ou d'ailleurs, que peuvent-elles nous dire aujourd'hui ? Et aujourd'hui, nous allons examiner donc la crémation au Japon. Au Japon, la crémation est obligatoire, elle est religieuse. 84% des Japonais sont shintoïstes et 71% sont bouddhistes. Il y a 850 000 décès par an. Et nous allons faire cette exploration, cette compréhension, grâce à Jean-Noël Robert. Jean-Noël Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orientaliste, spécialiste du bouddhisme et du Japon. Vous avez été chercheur au CNRS, enseignant à l'EPHE, section religieuse. Et depuis le 11 avril 2011, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de philologie de la civilisation japonaise avec, et je renvoie nos auditeurs sur le site donc du Collège de France, avec une leçon inaugurale le 2 février 2012. Depuis le 17 mars 2006, vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc, nous allons, grâce à vous et par vous, essayer de mieux comprendre cette spécificité de la crémation japonaise, ce qu'elle a de religieuse, et puis, pour être pédagogique, de mieux comprendre les différentes étapes de ces obsèques. Alors, première question, pourquoi cette pratique donc de la crémation au Japon est-elle massive et est-elle récente ?
Oui, en effet, vous l'avez très bien posé la question. Maintenant, on pense, lorsqu'on pense crémation, Japon, on pense crémation pour l'enterrement. D'ailleurs, les missionnaires catholiques qui venaient au Japon en général pour la vie, n'est-ce pas, après l'époque de Meiji, avant que le Vatican II ne diversifie les modes de traitement du corps, s'engageait à accepter d'être incinéré, ce qui était tout à fait presque, je ne pourrais pas dire blasphématoire, mais du point de vue catholique traditionnel, c'était pas la chose désirable. Et les missionnaires catholiques donc signaient un papier selon lequel ils acceptaient d'être traités comme les Japonais, donc d'être incinérés. C'était en même temps une marque de leur dévouement pour la cause du christianisme au Japon, ce qui montrait bien l'espèce d'égalité que vous avez soulignée entre l'idée de crémation et l'idée de mort au Japon. Or, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, ce n'est pas une condition pérenne de la vie post-mortem au Japon, c'est même assez récent. L'obligation de la crémation, je dirais, relève davantage de, alors je ne sais pas si vous voulez dire l'urbanistique ou de l'écologie, que de la religion, parce que, évidemment, vous l'avez très bien souligné, la crémation au Japon était bouddhique. C'est-à-dire, si on était incinéré, ça voulait dire qu'on appartenait au bouddhisme, mais tout bouddhiste n'était pas forcément incinéré. Je dirais même que c'était une marque spéciale, alors éminemment réservée aux moines, aux religieux, et par débordement, disons, de distinction des moines, ça passait souvent aux nobles, à la noblesse, mais le peuple était en général inhumé, enterré. Et si vous allez dans des petits temples bouddhiques japonais de province, vous voyez très souvent que le cimetière a encore des tombes de corps inhumés et pas seulement de corps incinérés. Donc la crémation était un acte religieux, il est devenu une sorte d'acte civique, un peu comme en Chine d'ailleurs, on peut pas dire que les Chinois soient bouddhiques, mais soient bouddhistes tous, mais l'inhumation et l'incinération est obligatoire en Chine.
Avant d'en venir, comme vous le faites maintenant, sur le caractère religieux donc de la crémation, de quand date selon vous ce basculement donc au Japon de la crémation qui a fini par s'imposer par opposition à l'inhumation
je pense que la généralisation de la pratique, et là je parle un peu de façon intuitive d'après ce qu'on voit dans les romans et tout cela, mais la généralisation de la pratique s'est faite vraiment après l'époque Meiji, c'est-à-dire 1868, n'est-ce pas, après 1868, où les conditions de modernité aidant, il était plus facile, parce que l'incinération implique quand même, la crémation implique quand même un gros bûcher, n'est-ce pas, faire brûler un corps humain, c'est une quantité considérable d'énergie qui est déployée. Et lorsqu'on a pu faire ça de façon plus technique, en quelque sorte, ça s'est généralisé, parce que il y avait quand même l'idée selon laquelle c'était désirable d'une certaine façon, c'était plus bouddhique. Mais l'obligation, je pense, est beaucoup plus récente. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais elle date sans doute des environs de la Seconde Guerre mondiale. Et elle est, à ce moment-là, ce n'est plus une obligation religieuse, mais simplement, encore une fois, civique. exactement comme ce qui s'est produit en Chine.
Je vous ai coupé, excusez-moi, mais donc vous étiez en train de développer effectivement l'idée d'une crémation religieuse.
Oui.
Donc comment les choses se passent-elles au Japon sur ce côté religieux et quelles sont les différentes étapes dans la crémation au Japon?
Alors évidemment, là, il faut faire une sorte de synthèse. Vous avez énormément de pratiques différentes.
Ah oui.
Enfin, vous aviez énormément de pratiques différentes au Japon selon les provinces et les grandes parties géographiques du Japon. N'est-ce pas? Par exemple, si nous parlions d'Okinawa, vous aviez un procédé d'inhumation extrêmement original dont nous n'allons pas parler, mais qui rappelle un peu celui de Madagascar presque. Donc, on est très loin de ce dont on va parler maintenant. Mais disons, si on fait un traitement un peu général de ce qui se passe grosso modo depuis les deux derniers siècles, vous avez d'abord, un peu comme en Europe, je dirais, je crois que c'est d'ailleurs universel, la personne meurt et le corps fait d'abord l'objet d'une veillée, d'abord d'une toilette mortuaire, où on le rhabillait. Maintenant, ça devient très différent. Mais autrefois, le mort était souvent revêtu d'un kimono blanc, avec toutes sortes de petits, j'allais presque dire tabous, enfin de toutes sortes de pratiques qui relevaient d'un traitement que l'on peut comprendre tout de suite, n'est-ce pas, même lorsqu'on ne connaît pas la culture japonaise. Par exemple, le kimono japonais, vous savez, les deux pans du vêtement sont superposés, donc vous avez la partie droite du vêtement qui est sous la partie gauche, n'est-ce pas. C'est la façon civilisée de mettre son kimono, qui date pratiquement du 7e siècle. Et pour le mort, on intervertit la façon de fermer le kimono, c'est-à-dire c'est la partie gauche qui est sous la partie droite, ce qui montre déjà qu'il est passé dans un autre monde. Autrefois, on faisait chausser ces sandales de paille qu'on appelle des zori, n'est-ce pas, parce que c'est associé à toutes sortes de croyances sur le chemin d'après la mort qui va les emmener dans des régions plus ou moins dangereuses à explorer. Alors, il faut les chausser, ils peuvent en effet marcher sur des charbons ardents, des pointes et des choses comme ça. Alors, on les chaussait de sandales de paille, vous me direz que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais et ces sandales de paille, on intervertissait, c'est-à-dire la sandale du pied droit allait sur le pied gauche et la sandale du pied... Là aussi, on a un peu ça dans les cimetières, vous savez, bretons, avec cette marche qui est sur la porte principale, qui empêche le mort de ressortir du cimetière, les morts étant censés ne pas pouvoir lever les pieds. Là, c'est pareil, en intervertissant les sandales, on va empêcher le mort de marcher normalement.
Mais vous voulez dire, c'est pour le garder là où il est, pour le laisser là où
il
est.
Le laisser, voilà.
Ou alors, c'est pour montrer que... Il y a un chaos, un désordre, et que tout est inversé?
C'est une très bonne question, et qui va m'amener à compliquer les choses, parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, avec cette amusante statistique qui donne 85% de shintoïstes et 71% de bouddhistes, vous voyez que le Japon est un pays, une sorte de syncrétisme religieux, où vous avez deux visions du monde, non pas qui se heurtent, mais qui se superposent. Et vous avez, dans le Shinto, une sorte d'horreur de la mort, on peut dire. La mort, c'est la souillure. Et cette souillure rejaillit sur les vivants, ce qui oblige les vivants à s'en prémunir de toutes les façons différentes. Encore maintenant, c'est un petit aparté, mais qui va vous expliquer ça tout de suite, quand vous allez à un enterrement au Japon, si vous séjournez dans une famille japonaise, la première chose qu'on va faire quand vous rentrerez dans cette famille, on va vous jeter du sel sur le corps, n'est-ce pas, enfin, avec une salière, avec n'importe quoi. Parfois, lorsque c'est un peu plus rituel, on le prend quand même de façon plus ordonnée, mais le sel étant censé purifier, vous purifier de la souillure que vous avez eue au contact du mort. Donc, vous avez cette idée, voyez, tout ce que je viens de dire sur le kimono, les sandales de paille et tout ça, sont plutôt du niveau de la vie quotidienne japonaise, donc du quotidien japonais, qui est géré par les croyances shinto, en quelque sorte. Le bouddhisme va aller ailleurs. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la prévention, du rappel, du retour du mort, pourrait être considéré comme ce qui relève du shinto. Il y a d'ailleurs des contacts très certains avec la mythologie ancienne japonaise où vous retrouvez cette idée de l'horreur du cadavre qui est très présente. Mais cette horreur du cadavre est en quelque sorte compensée par la vision du monde bouddhique, compensée mais de façon très insuffisante, enfin c'est peut-être pas le mot qui convient, mais partiellement, parce que pour le bouddhisme, après tout, la mort n'est pas une grande affaire, puisque vous savez, cette idée selon laquelle la personne meurt pour renaître aussitôt, enfin sinon renaître aussitôt, du moins dans les 49 jours qui suivent la mort. Donc, en principe, le corps n'est plus rien. Le principe, je ne veux pas me lancer dans des débats théologiques bouddhiques, mais enfin disons, le principe de la personne, quel qu'il puisse être, là c'est, disons, celui dont on pourra dire qu'il transmigre, le sujet de cette métempsychose, si l'on peut dire, c'est très débattable, mais on présuppose, disons, dans les opinions générales, qu'il y a quelqu'un quand même. Mais même ce quelqu'un, dès qu'il est mort, il n'est plus là. Alors il y a cette contradiction. Et ce qui explique en même temps la crémation. La crémation symbolise, fait plus que symboliser, concrétise au contraire le fait que la personne a disparu.
Avant d'en arriver à la crémation, donc vous dites il y a deux choses. Il y a à la fois le shintoïsme, donc il y a horreur de la souillure, donc de la mort, et donc effectivement avec des purifications qu'il importe de faire. Et deuxièmement, le bouddhisme, donc qui offre des perspectives religieuses d'une réincarnation, d'une transmigration, pardon, vous avez employé ce terme-là, donc ça va être plus précis, de transmigration. Alors, quand donc vous avez indiqué effectivement comment, lors de la veillée funéraire, le corps est préparé, j'ai noté, mais vous me dites si je me trompe, mais que effectivement, on ajoutait un chapelet avec 108 boules,
crin, enfin, oui,
voilà,
oui.
Un couteau,
alors,
etc.
Oui, donc, tout ça, le couteau est tout à fait. Enfin, oui, parfois, mais pas si souvent que ça. Alors, cette idée du chapelet aussi vient du fait que les Japonais sont plus ou moins bouddhistes dans la vie quotidienne, plutôt moins que plus. Mais alors, c'est peut-être l'efficacité de l'action du clergé bouddhique au long des siècles. Disons que lorsqu'on est mort, on se rapproche singulièrement du bouddhisme, en particulier. Encore une fois, je fais la synthèse de croyances. Vous savez, quand vous demandez l'opinion d'un moine et l'opinion d'un fidèle, les choses sont très différentes.
Je suis désolé de vous contraindre comme ça à synthétiser ou à simplifier des choses.
C'est très amusant en même temps. Mais vous voyez, vous avez plusieurs choses qui se conjuguent là, même à l'intérieur du bouddhisme. Très souvent, disons, la grande croyance japonaise bouddhique, l'une des plus répandues en ce moment, c'est ce qu'on appelle dans les langues occidentales souvent l'amidisme, c'est-à-dire la croyance en le Bouddha Amida. Amida, à prononcer la japonaise, c'est Amitabha en sanskrit, ou Omitwo en chinois. Si vous voyez des films de karaté chinois, vous avez toujours le moine qui dit Omitwo Fo, n'est-ce pas? C'est Amida Butsu. Donc ce Bouddha Amida est un Bouddha très particulier qui vit dans un monde immensément lointain à l'ouest de notre monde, pour autant que ça veuille dire quelque chose, et qui a fait vœu d'accueillir en quelque sorte dans son royaume, dans sa terre pure, tous ceux qui auront invoqué son nom pendant leur vie, même de façon très superficielle. Si bien que pour une grande partie des Japonais, alors, arrivés dans la terre pure d'Amida, ces personnes ne vont pas refaire tout le travail de préparation qui mène à l'état de Bouddha, ils seront en quelque sorte pratiquement Bouddha. Je simplifie considérablement les choses. Si bien que très souvent, les Japonais, pour dire mourir, et c'est une singularité du japonais par contraste avec les autres langues de l'Extrême-Orient, très souvent pour dire mourir, on dit devenir Bouddha, c'est-à-dire Jobutsu. C'est-à-dire on devient Bouddha, on devient en quelque sorte plus ou moins l'égal du Bouddha Amida. Alors vous voyez, de ce point de vue, le chapelet est tout à fait explicite. Il y a aussi des croyances, par exemple, vous avez des familles plus pieuses, enfin, ça se fait beaucoup moins maintenant, mais c'était assez répandu encore il y a quelques temps. Vous aviez en général une statue du Bouddha Amida dans votre maison, et le croyant se reliait, enfin la famille reliait les mains jointes du croyant, souvent autour du chapelet, à la statue du Bouddha Amida par des fils de plusieurs couleurs qui symbolisaient le rayonnement de son auréole lorsqu'il descendrait chercher le mort. Et donc, en se reliant, en se connectant, comme on dirait maintenant, à Amida, il était assuré de passer dans le paradis, si l'on peut dire, de ce Bouddha. Alors ça, c'est la partie optimiste, en quelque sorte, mais vous avez aussi énormément de croyances en les différents chemins, les six voies, ce qu'on appelle les six voies. Et en particulier, il y a trois voies dangereuses qu'on appelle les sanzen, c'est-à-dire la voie des enfers, évidemment, là vous avez des enfers dans le bouddhisme, la voie, alors qu'on appelle en sino-japonais la voie des démons affamés, qui sont des espèces de, on pourrait dire maintenant aussi, des sortes de zombies qui vivent aux confins du monde des vivants et qui vivent en général des rejets du monde des vivants, des déjections, des ordures, un peu comme les ours au Canada, dans les villages. Et vous avez aussi la voie des animaux. Alors tout cela était à éviter. Et on essayait, par plusieurs pratiques, d'éviter ces voies dangereuses. Alors vous voyez, même le bouddhisme n'est pas tout à fait cohérent. Ça dépend bien sûr du degré de croyance des gens. Mais ça explique les caractères bouddhiques. Alors le poignard dont vous parlez aussi, était aussi pour justement pour éviter les mauvais esprits ou les démons dangereux. Démons, voilà. les démons des enfers, parce que aux enfers, vous êtes torturés. Et alors ça peut aider de pouvoir se préserver, mais bon.
Et puis là, j'ai noté un autre élément, mais vous allez me confirmer. Donc un sac plein d'argent, c'est ça
rempli. Alors là, ça nous parle, comme on dit maintenant, puisque c'est tout à fait quand on lit les dialogues des morts de Lucien et tout ça, vous avez. Alors l'obol non pas au Styx, mais à Charon, enfin à Charon. Mais là aussi, vous franchissez un fleuve, le fleuve qui va vous mener dans ces trois voies dangereuses aussi. Alors il va falloir aussi payer le. Et vous avez des proverbes japonais aussi qui disent aussi, voilà, mieux on paye le passeur, plus on sera. Et vous avez toute une sorte de folklore qui entoure ça. Vous avez par exemple au musée Guimet, au panthéon bouddhique du musée Guimet, que j'invite tout le monde à aller visiter, entre parenthèses, ce panthéon bouddhique japonais, donc, a une statue d'une dame pas très attrayante d'aspect qu'on appelle Datsueba, c'est-à-dire la vieille qui retire les vêtements. C'est quelque chose qu'on a aussi dans les croyances grecques. Donc, en arrivant à l'autre rive, parce que très souvent, comme dans tout le monde entier, mais très souvent, on parle du passage à l'autre rive pour aller à la mort, n'est-ce pas, en japonais aussi. Et en arrivant sur l'autre rive, donc vous avez cette vieille qui vous fait vous déshabiller, et puis vous avez un vieux qui accroche les vêtements à des branches d'arbres, n'est-ce pas? Alors, la Datsueba, la vieille qui dépouille les vêtements, est plus représentée, parce qu'elle est plus, sans doute, impressionnante, que le Kenneo, n'est-ce pas, le vieux qui suspend les vêtements.
Alors, donc, ce que vous dites, c'est que, apparemment, si j'ai bien compris, les Japonais sont plus shinto de leur vivant et plus bouddhistes morts. Et vous me disiez, en préparant cette émission, que ça va jusqu'à leur donner un nom au moment de la mort différent, plus religieux et presque monastique, qui effectivement les introduit, j'imagine, plus facilement dans la vie future.
En effet, alors là c'est quelque chose de très particulier, je pense au Japon, parce que je ne crois pas que ça se fasse de la même façon, en tout cas en Chine et en Corée, pour l'Asie du Sud-Est, je ne sais pas. Mais dans les pays, disons, de tradition chinoise, même le Vietnam semble différent, en tout cas ni en Chine ni en Corée. D'ailleurs, ça s'explique peut-être par le fait que le clergé bouddhique japonais est moins loin par sa vie quotidienne, par son quotidien, des laïcs, les religieux japonais se mariant, ayant des enfants, etc. Donc, si bien que lorsque un laïc meurt, il est censé entrer dans les ordres. On peut entrer dans les ordres comme moine, mais on peut recevoir les préceptes mineurs qui fait de vous ce qu'on appelle un laïc pieux, koji, n'est-ce pas, en japonais. Donc, quelqu'un qui se promet d'avoir un mode de vie suffisamment moral pour déjà être considéré comme un bouddhiste pratiquant. En effet, quand vous mourrez, vous êtes censé au moins acquérir cet état de laïc pieux, et le moine du monastère dont vous dépendez, parce que là, il faudra le dire tout à l'heure, enfin, chaque famille dépend d'un monastère, pour sa mort en tout cas. Et donc le moine du monastère dont vous dépendez vous donnera un nom bouddhique. C'est un nom en général très ronflant, souvent de 4 caractères, donc d'un double composé, par exemple la perception de la vacuité et diffusion de la morale ou quelque chose comme cela. Donc le laïc pieux, qui est telle et telle personne. Ce nom est en général donné contre espèces sonnantes et trébuchantes et de sommes souvent considérables.
Oui.
Donc le moine doit exercer son imagination. Mais malgré tout, il y a une nomenclature. Et c'est le nom qui va figurer sur votre tombe. En général, les tombes sont familiales au Japon. Maintenant, la pratique est de mettre souvent le nom laïc plus le nom religieux. Mais parfois, vous n'aviez que le nom religieux. Au moins le nom de famille plus le nom religieux, avec le titre de laïc pieux. La femme, elle, se voyant décerner le titre de femme fidèle, d'épouse fidèle, shinnyo. Alors, très souvent, d'ailleurs, si vous visitez un cimetière au Japon, vous avez l'un des noms qui est, c'est gravé sur le marbre ou la pierre du cimetière, ou parfois sur le bois lorsque c'est de vieilles tombes, mais lorsque la personne est vivante, on le fait faire avant sa mort, tout ça en général. Et lorsqu'il meurt, on repasse à l'encre noire, donc ça indique que la personne est morte. Et souvent, par exemple, dans la poésie comique, et même dans les romans comiques de l'époque d'Edo, la veuve se dit la femme fidèle en rouge, c'est-à-dire celle dont le nom figure encore à l'encre rouge sur la tombe dont le mari est écrit en noir.
Alors venons-en, si vous voulez, à la partie de la crémation elle-même. Donc j'ai vu sur des images qui, m'avez-vous dit, sont relativement récentes.
Oui,
comment
c'est
les choses
de Mégis, là, oui.
Voilà, comment les choses se passaient. Donc effectivement, il y a tout un cérémonial autour de la crémation, au moment de la crémation elle-même, et après, au moment de la récupération des os pour les mettre dans l'urne. Alors expliquez-nous un peu comment ça se passe aujourd'hui, enfin ou comment ça se passait autrefois et comment ça se passe aujourd'hui, si on tient compte effectivement de la modernisation de
Alors,
la crémation.
Alors, bon, disons que le principe reste le même, que comme le disions tout à l'heure, la crémation avec le bûcher, ce qu'on appelle le dabi en japonais, enfin d'un vieux mot sanskrit qui a été ensuite adapté à la langue japonaise, est une cérémonie essentiellement bouddhique, là, ce que nous voyons. Et c'était quand même, ça revenait très cher de réunir le bois suffisant pour incinérer tout un corps. Mais c'était réservé quand même aux gens très riches, par exemple à l'époque de Meiji, là, puisque vous avez, on voit bien que vous montrez des laïcs d'un côté et des moines de l'autre. Ce sont donc des laïcs fortunés qui se livrent à l'incinération. L'important, puisque c'est dans un cadre bouddhique, l'important c'est d'être incinéré et surtout qu'il y ait des moines qui récitent les sutras. L'incinération est une cérémonie pleine, n'est-ce pas, comme chez nous. Et alors, selon le degré de luxe, il faudrait que les sutras puissent être récités pendant toute la durée de l'incinération. Et il faut voir aussi que cette incinération, dans un cadre bouddhique, un peu comme le christianisme, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est imiter Jésus-Christ. Être bouddhiste, c'est imiter le Bouddha historique Shakyamuni. Donc, quand vous êtes incinéré comme le Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire vous allez avoir le même traitement. Et donc, une fois que vous êtes incinéré, on va se répartir les reliques. Vous savez, lorsque Bouddha Shakyamuni est mort, ses reliques ont été divisées entre les 8 régions de l'Inde, etc. Là, c'est pareil, vous avez la famille, en général, c'est toujours patrilinéaire au Japon, n'est-ce pas, un patriarcat. Donc, c'est le fils aîné qui va être le chef de la cérémonie. Après cela, après la cérémonie, donc, on va recueillir les ossements. Il y a des cendres d'un côté, et puis des ossements de l'autre. On va recueillir tout cela dans une urne, soit dans une urne, soit dans plusieurs urnes.
Alors, juste sur le mode de recueillement, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose de très très particulier, que ça se faisait effectivement avec des baguettes, c'est ça?
Oui.
Pour le mettre dans le bon ordre.
Oui, voilà. Alors, le bon ordre. Essayer de le mettre, disons, plus ou moins dans l'ordre de... Là aussi, il n'y a rien que de très logique, n'est-ce pas? Vous essayez de mettre les pieds en bas et la tête
donc
en haut.
Donc les os sont indispensables, parce que dans la crémation occidentale aujourd'hui, il reste plus grand-chose.
Oui, mais non, justement,
pour les bouddhistes...
Non, là encore, c'est conditionné par la technique. Il restait forcément des reliquats. Pas des reliques, mais un reliquat de la crémation, il fallait pas on pouvait pas l'acheter. Et au Japon, on aime bien faire les choses de façon ordonnée, donc il fallait le faire. Maintenant, dans les techniques modernes de crémation, je crois que tout brûle et je ne suis pas sûr que cette pratique continue actuellement. Mais c'était assuré jusqu'à encore assez récemment, au point même que, vous savez, si vous allez au Japon, si jamais vous avez le malheur, lorsque vous mangez dans un restaurant, que vous donnez quelque chose avec vos baguettes à quelqu'un, et que, enfin, c'est impensable que des Japonais le fassent, mais si, disons, si vous essayez de le faire avec un Japonais, tout de suite, tout le monde se récrie, parce que s'il y a un tabou de l'étiquette japonaise, c'est que deux personnes prennent en même temps la même chose avec leur paire de baguettes, parce que c'est ce qui se fait, justement, dans ce tri des os après la crémation. C'est le seul moment au Japon où vous pouvez, disons que si vous aviez une frite, la dernière frite, si je prenais, moi, la frite avec mes baguettes et vous avec les vôtres, tout de suite, il y a une des personnes qui lâche ses baguettes avec un cri d'horreur, parce que ça évoque cela. Et on voit bien, encore une fois, comment cette horreur de la mort, parce que là, c'est très bouddhiste, mais est quand même ancré au Japon, parce que ça évoque tout de suite la cérémonie funéraire. Mais en effet, c'était très important de mettre dans l'urne principale, disons, ce qui restait le plus évident du corps.
Parce que dans l'illustration, mais que nos auditeurs vont voir, parce qu'elle sera sur le site, dans l'illustration, effectivement, on voit que traditionnellement, je ne sais pas si ça se passe encore toujours comme cela, mais traditionnellement, effectivement, par des baguettes, c'est ça ? Alors, je ne sais pas, de dames, de moines.
Oui, alors là, ce sont deux personnes de la famille, évidemment.
Voilà, deux personnes de la famille qui recueillent ordre, en commençant par le bas, c'est-à-dire par les pieds. Jusqu'au crâne, tous les éléments pour les placer délicatement. Et donc ça se pratique plus ou moins.
Ça se pratiquait encore dans les campagnes, il y a encore quelques décennies.
Donc ça, c'est le mode traditionnel. Voilà.
Oui, voilà. Maintenant, je ne pense pas. Là, je suis quasiment certain que ça ne se... Disons, dans l'entourage que j'ai immédiat, je crois que ça ne se passe plus du tout comme cela. Maintenant, c'est confié à un peu comme chez nous, à des spécialistes. L'important, en revanche, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Enfin, ça aussi, c'est très... Ce qui est difficile à imaginer pour nous, puisque quelqu'un est enterré dans un endroit, en principe, en Europe. Le système des cendres au Japon permet d'enterrer la personne en plusieurs endroits différents. Vous avez, par exemple, lorsque la veuve, par exemple, tient, ou vice-versa d'ailleurs, le veuf tient parfois à avoir les cendres de son mari chez elle à la maison. Et la partie la plus importante peut être déposée aussi dans un monastère, dans le temple qui s'occupe du quartier, n'est-ce pas, de la famille, et puis aussi, bien sûr, au cimetière.
D'accord.
Alors, vous pouvez parfois avoir plusieurs... Le défunt est en plusieurs endroits. Même lorsqu'il n'y est pas physiquement, si je puis dire, par les cendres, il y est par ce qu'on appelle le hai, n'est-ce pas, c'est-à-dire une espèce de plaquette avec son nom religieux qui est déposé. Alors ça, c'est très important, il faut le déposer dans le temple pour qu'il soit... Alors après, selon ce que vous donnerez comme contribution au temple, il pourrait y avoir un service... pas quotidien, mais hebdomadaire, mensuel, annuel, etc. Évidemment, avec toutes les personnes, c'est en général collectif, sauf si vous payez très cher, vous pouvez en effet avoir, comme chez nous, les messes pour les morts. Mais il sera, disons, l'objet d'un culte post-mortem, de pratiques bouddhiques, qui devrait l'aider à surmonter les difficultés des renaissances.
Donc ça veut dire que la crémation, pour un Japonais, est liée principalement, parce que vous parliez au début du Shinto et de l'horreur de la souillure, donc de cette horreur-là du corps putréfié qui va progressivement disparaître. Donc c'est ce désir-là d'éliminer toute souillure du corps, ou c'est un mélange entre le bouddhisme d'un côté
je dirais vraiment
et puis le shintoïsme de l'autre.
Il y a vraiment deux pratiques qui ont été parallèles. L'horreur de la souillure de la mort n'avait pas empêché les gens d'inhumer jusque très récemment.
D'accord.
Vous savez, on dit toujours que la première crémation a eu lieu au Japon, parce qu'il y a toujours une première fois au Japon, les historiens, l'historiographe était très méticuleux. Alors c'est très pratique à retenir, parce que c'est une date facile à retenir, c'est en l'an 700. Et c'est un moine du nom de Dōshō, d'une école appartenant à une école bouddhique très, je dirais, très intellectuelle, qui aurait été le premier à avoir été vraiment incinéré selon la norme bouddhique. Et avant, il y a sans doute eu des gens qui sont faits, ne serait-ce que les moines étrangers qui venaient au Japon, mais la grande inhumation au Japon, l'inhumation impériale, c'était l'inhumation justement dans ces fameux tombeaux qui sont encore à présent des choses extrêmement impressionnantes. Bon là, c'était le souverain et les grands nobles qui avaient ce genre d'inhumation, mais il n'était pas question d'incinération, bien que là, je pense que c'était quand même l'époque, si je puis faire un peu de science-fiction, c'était quand même l'époque où la grande mythologie japonaise qui a été consignée dans les textes du 8e siècle devait être en vogue au Japon. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'antagonisme. D'ailleurs, un peu en Occident, c'est pareil. Le cadavre n'a jamais été considéré comme quelque chose de très beau à regarder. Mais on a quand même inhumé, on tenait justement à cette inhumation. Je crois que ce qui n'allait pas, c'était plutôt le cadavre pourrissant lui-même. Une fois qu'il était bien nettoyé, on voit la chose à Okinawa, justement, où vous avez ce double enterrement, cette double inhumation, comme un peu à Madagascar. C'est-à-dire, pendant 2 ans, on laisse le cadavre reposer et se dépouiller de tout ce qui est superflu pour ne garder que les os après. Alors oui, il y avait cette horreur du passage, surtout par cette étape un peu ragoûtante, mais ensuite, je pense qu'il y avait une idée de la puissance du corps.
Alors après cette cérémonie, qui est une cérémonie familiale et religieuse, au bout de 49 jours, c'est ça ? Donc l'urne est déposée dans le caveau. Alors pourquoi 49 jours ? Quelle est l'importance ?
Alors là, on tombe vraiment dans le bouddhisme, j'allais dire normal, c'est un mot à la mode maintenant. C'est-à-dire que c'est la date traditionnelle, 7x7, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'antarabhava en sanskrit, c'est-à-dire l'existence intermédiaire qui a eu beaucoup plus de succès sous la traduction tibétaine de bardo, ce qui est entre, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est le nombre standard de jours qui sépare la mort de la renaissance de la personne dans une autre destinée. Alors évidemment, c'est très important pendant ces 49 jours d'assurer, alors c'est là que toutes ces histoires sur les trois voies et tout cela fonctionnent à plein, parce que il faut assurer au moins, alors évidemment, si on est amidiste, mais la religion n'est jamais à l'abri de contradictions, comme vous le savez, si on est amidiste, on n'a pas besoin de 49 jours, on est reçu directement, enfin ou presque, dans le paradis d'Amida, mais quand même cette idée de 49 jours qui décide de la destinée, alors je ne dirais pas post-mortem, mais plutôt de la nouvelle vie du défunt qui peut renaître dans les trois mauvaises destinées dont nous avons parlé, mais qui peut en revanche aussi renaître dans les bonnes, c'est-à-dire la meilleure, c'est l'être humain, et puis les dieux, mais les dieux, ça on n'y croit pas trop quand même, il est très difficile de définir le dieu au Japon, parce que, enfin, on ne va pas entrer dans cette discussion, et puis vous avez aussi cette cinquième destinée, donc entre celle des hommes et celle des dieux, qui est celle des Ashura, n'est-ce pas, les titans, ces ennemis des dieux traditionnels qui sont des êtres surpuissants aussi. Ils ont très peu d'existence représentative au Japon en ce moment. Et alors, l'idéal, ce serait de renaître comme humain, et puis encore mieux comme homme, parce que c'est comme ça que vous pourriez devenir Bouddha éventuellement. Alors, ces 49 jours sont décisifs pour cela. Et on fait des cérémonies, normalement, on doit, si le monastère est sérieux, ils assureront des lectures de sutras pendant ces 49 jours.
Donc, au bout de 49 jours, le mort est arrivé à destination.
Alors voilà, normalement, il n'est plus du tout du ressort de la famille. Mais là encore, ça serait trop beau si les choses se déroulaient de façon aussi rationnelle. On va ensuite, au Japon, faire des commémorations périodiques. En général, on compte toujours l'année de la mort comme la première année. Donc, ensuite, fera en général le 3e anniversaire de la mort, donc ce qui est 2 ans après. Ensuite, le 5e, 7e. Ça peut aller assez loin. Vous pouvez aller jusqu'au 17e, 16e, 17e, enfin 16 ans après. Et puis, en général, après, ça peut aller jusqu'aux 30 ans, mais disons que toute période de deuil familial est passée, n'est-ce pas? Alors, je pense que ces périodes récurrentes de 3, 5, 7, 13, 17 viennent plutôt pour consoler la famille, en quelque sorte. Mais du point de vue bouddhique, enfin, le clergé, bien sûr, ne va pas refuser cela, mais du point de vue bouddhique même, ça a beaucoup moins de signification, puisque les gens sont censés être partis depuis longtemps sous d'autres cieux.
Et donc, ça veut dire que, après la mort, donc après le dépôt dans le caveau, la visite au cimetière, c'est ça? Ou les visites au cimetière sont régulières, fréquentes?
Oui, alors là, vous pouvez...
Annuelles ou plus qu'annuelles?
Alors, en général, vous avez, grosso modo, l'équivalent de la Toussaint. Oui. N'est-ce pas, qu'on appelle la fête des morts, qui est une fête très importante au Japon. Alors, encore une fois, je veux dire, croyances et théologie ne sont pas en harmonie, mais on pense que les morts reviennent, en quelque sorte.
Et ce jour-là.
Ce jour-là, oui. Donc, c'est le 15e jour du 8e mois. C'est-à-dire, maintenant, c'est le 15 du mois d'août, n'est-ce pas, le 15 août. Mais avec le vieux calendrier, ça peut être un mois auparavant. Et le Japon étant passé au calendrier officiel occidental à l'époque de Meiji, vous avez toujours cette dissension, enfin, cette contradiction entre
le 15 juillet ou le 15 août.
Pas forcément le 15 juillet, enfin, autour du, mais vous avez, alors, les fêtes qu'on appelle le Kyubon, n'est-ce pas, c'est-à-dire la vieille fête des morts, où là, vous avez quand même les fêtes que l'on présenterait comme folkloriques maintenant, qui se déroulent. Par exemple, vous avez à Kyoto cette très célèbre fête du Daimoji-yama, une montagne à l'est, enfin, une colline plutôt qu'une montagne à l'est de Kyoto, où est tracé un caractère très immense qui signifie grand, enfin, bon. Et on illumine ce caractère ce jour-là pour guider les morts en quelque sorte qui reviennent et qui ensuite repartent, parce qu'il est important de les faire repartir.
Ah oui.
Il faut qu'ils repartent. Alors là, vous avez effet, vous avez ces...
Donc tous les ans, ils reviennent et tous les ans, ils repartent.
Voilà, ça se fait de moins en moins, même ça se fait pratiquement plus. Vous avez pratiquement, on leur laisse une place à table, vous voyez, etc. pour les... Alors c'est en parfaite contradiction avec le bouddhisme, évidemment, puisqu'ils ne sont plus là. Mais il y a cette double vie du mort, si on peut dire, la vie, je ne dirais pas Shinto, c'est un bien grand mot, enfin disons qui s'inspire des croyances traditionnelles japonaises, et la vie bouddhique de l'autre. Mais cette fête du Obon, n'est-ce pas, est encore extrêmement pratiquée, fêtée au Japon, sous ces deux formes. Sous la forme officielle, ça sert plutôt de grandes vacances, enfin, c'est un peu vraiment le Ferragosto italien, où tout le monde part en général à la campagne, où c'est retrouver ses racines familiales anciennes, etc. Mais c'est encore très pratiqué.
Écoutez, Jean-Noël Robert, merci beaucoup donc d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup de nous avoir expliqué, effectivement, tout en vous demandant cet effort un peu inhumain de simplifier un peu les choses, alors que la complexité, plus on connaît le sujet, ce qui est votre cas, plus la complexité règne. Donc d'essayer de mieux nous faire comprendre, effectivement, pourquoi la crémation, pourquoi cette crémation s'est imposée de façon relativement tardive, enfin, dans l'histoire, et que, aujourd'hui, elle est, effectivement, le mode habituel, fréquent, constant, donc, d'obsèques, enfin, des obsèques japonaises, et avec ce côté que vous nous avez expliqué, religieux, qui encadre, accompagne, permet de mieux inscrire le mort dans la communauté des vivants et des morts pour une autre vie. Jean-Noël Robert, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.